Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série « J'ai choisi le Christ » et les deux thèmes que nous allons entreprendre, c'est primo, tout est accompli, et secondo, le secret d'une bonne mort. Chers amis, y a-t-il au monde une puissance plus grande que celle du péché? Elle fane les fleurs de l'espérance, ternit l'or le plus fin, dénature l'intelligence, ruine la vie. Elle chasse l'homme du paradis, de la communion avec Dieu, et sème le malheur, les ronces et la mort. Y a-t-il donc sur la terre une puissance plus forte et plus persévérante que celle du péché? Oui, c'est celle de l'amour, celle de l'amour divin manifesté en Jésus-Christ. Nous avons suivi quelques-uns des combats et des victoires de cet amour acharné, de cette claire passion qui a voulu ouvrir un chemin de salut pour tout pécheur repentant. Et nous avons remarqué comment Satan et les hommes se sont ligués pour tenter de vaincre l'agneau de Dieu avant et pendant son sacrifice total. Parfois, nous avons presque tremblé pour le Christ. Allait-il interrompre la preuve éternelle de la suprématie de l'amour? Nous pouvons être soulagés. Le témoignage de cet amour souffrant, endurant et victorieux ne peut aller plus loin. Le juste, le rédempteur, le sauveur annoncé dès les temps anciens va s'écrier « Tout est accompli ». Amis chrétiens, qui donc a dit que c'était un cri déchirant? Mais c'est un cri de joie, au contraire, le plus merveilleux, le plus grand, le plus beau des cris de joie. Tout est accompli. Jésus-Christ a achevé sa révélation et son sacrifice rédempteur. Il a donné sa vie afin que tout pécheur repentant puisse être délivré de la puissance mortelle du péché et recevoir par l'esprit régénérateur le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. À la croix, l'honneur du péché a été démontré, c'est vrai, mais la surabondante puissance de l'amour a été victorieusement révélée. On peut bien dire ici, après avoir entrevu ce combat, là où le péché a abondé, la grâce, elle, a surabondé. Romains chapitre 5, verset 20. Oui, tout est accompli. Qu'auriez-vous désiré que le Christ aurait fait davantage? Auriez-vous désiré cela, mes chers amis, amis de toute la terre? Oui, désormais, il n'y a plus de sacrifice pour le péché, car le sien a été déclaré absolument suffisant. Tout homme en faillite morale et spirituelle peut être gracié par la foi en se réclamant de cette suprême caution, tout est accompli. En Israël, une faillite était une chose grave, et quand elle était déclarée, le nom de qui faisait banqueroute, le nom de sa famille, le nom de sa tribu était inscrit sur un parchemin et celui-ci était cloué aux portes de la ville. Si quelqu'un payait à la place du failli, on pliait simplement le parchemin accusateur en deux et ainsi annulé, on le reclouait sur place pour démontrer que les dettes et le blâme étaient effacés. Pour ceux qui se repentent et reconnaissent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, il est écrit de son œuvre expiatoire. Il est donc écrit qu'il a annulé l'acte accusateur qui subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Colossiens chapitre 2, verset 14. Oui, le Fils de Dieu a payé notre rachat jusqu'au dernier centime et il a ouvert la source de notre régénération en nous offrant l'action victorieuse de son Esprit Saint. Tout est accompli. La rédemption et la régénération. Désormais, quiconque veut être sauvé devant Dieu et dans la vie peut l'être en regardant au Christ, en acceptant simplement sa grâce et son Esprit Saint. Car tout est accompli. Et maintenant, chers amis, en plus de cette bonne nouvelle, y a-t-il une leçon de vie dans ce cri de joie? Oh oui, une leçon, mais aussi quelle leçon, quel secret et comment les formuler? Eh bien, voici une phrase impérative qui pourrait les résumer facilement. Termine toujours ce que tu commences. Oui, chers parents, enseignons patiemment ce principe à nos enfants. Le siècle qui leur a été préparé est si plein de distractions et de sollicitations qu'il est indispensable de les aider à choisir eux-mêmes ce qu'ils veulent entreprendre. Et après, quand cela est bien, il faut veiller à ce qu'il l'achève, que ce soit un simple dessin ou une chose qu'il construise. Je connais une jeune femme dont l'armoire est remplie d'objets inachevés. Elle est pleine d'idées, mais n'a pas encore appris le secret de la véritable réalisation. Je lui ai proposé d'inscrire cette pensée de Frédéric Amiel sur une belle feuille de papier et de l'épingler dans sa chambre. L'inachevé n'est rien. Et la jeune femme en question est en train de sortir de sa funeste dispersion. Naturellement, pour mener à chef ce que l'on entreprend dans la vie ou dans l'œuvre de Dieu, il ne faut pas commencer 36 choses à la fois, comme on y est constamment sollicité. La dispersion dans l'œuvre de Dieu est aussi néfaste qu'ailleurs. C'est une tendance de l'heure, pourtant. On ne cesse d'inventer de nouvelles réunions, de nouvelles conventions, de nouvelles organisations sollicitant notre temps, notre argent et notre prière. Tout cela peut devenir carrément un piège si l'on ne sait pas se discipliner avec discernement. Voyez-vous, l'apôtre Paul, qui connaissait aussi bien la vie que la théologie, il disait « Je fais une chose » et il la faisait avec la conviction qu'elle était selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est allé toujours jusqu'au bout. Quand on entreprend une chose avec l'approbation d'en haut, il faut toujours achever ce que l'on a entrepris. C'est une règle de réussite. Certes, cela ne va pas tout seul, absolument pas pour personne. Parfois, il s'agit de vaincre sa paresse pour y arriver. Et ce fut le cas du grand naturaliste Buffon, qui, dans sa jeunesse, passait pour n'avoir que de modestes talents. L'habitude, il avait vraiment une habitude assez particulière, c'était de traîner au lit. De traîner au lit le matin, et cela lui faisait évidemment perdre un temps considérable. Il avait promis à Joseph, son domestique, de lui donner un écu chaque fois qu'il réussirait à le réveiller de bonne heure. Mais tous les prétextes lui étaient bons pour rester au lit. Or, un jour, décidé quand même à gagner ses écus, Joseph recourut aux grands moyens et n'hésita pas à verser sur la poitrine du dormeur un baquet plein d'eau glacée. Le moyen réussit, et plus tard, Buffon disait « Je dois à Joseph 3 ou 4 volumes de mon histoire naturelle. » Et oui, pour réussir, il faut exercer et stimuler la persévérance. En vérité, dans ce monde comme dans l'œuvre de Dieu, les grandes œuvres ne sont pas accomplies par la puissance, mais surtout par la persévérance. La persévérance qui peut être vivifiée par l'Esprit de Christ, comme nous le verrons tout à l'heure, est un élément indispensable de réussite propre et juste. Hélas, Jésus-Christ connaissait déjà les gens tout feu, tout flamme, mais qui s'éteignent comme un feu de paille. Et je pense avec nostalgie à certains jeunes enthousiastes d'hier qui aujourd'hui sont amorphes, à certains adultes qui voulaient tout entreprendre ou tout renverser et qui mijotent tant bien que mal, soit pour avoir trop entrepris, soit par lassitude. Si je parlais en ce moment à l'un de ces découragés, j'aimerais lui dire simplement « Révisez vos entreprises, éliminez la dispersion de vos efforts et puis persévérez, toujours persévérez. » Chers amis, ai-je parlé à quelqu'un? Je me le demande. Donc, dans l'œuvre aussi, il faut de la persévérance. Et la victoire, là encore, est à ceux qui s'y sont exercés dans les petites choses et qui sont résolus, oui, qui sont résolus, que Jésus-Christ a pu dire « Tout est accompli ». Se laisser aller dans l'épreuve, démissionner, est tout à fait humain. Mais c'est le contraire de l'esprit de la croix. J'ai lu quelque part que 2 grenouilles tombèrent un soir dans un pot de crème. Je ne sais pas si c'est dans le livre, je me rappelle pas très bien quel était son nom, mais c'était des livres qu'on obtenait au kiosque. Et une de ces grenouilles, qui était convaincue que c'en était fait, se laissa sombrer au fond du pot et y trouva la mort. Mais l'autre, persévérante, ne cessa de nager, tellement que tant et si bien qu'elle elle finit par transformer la crème en beurre. Et ça là, cela est devenu une solide assise, d'où le matin, elle a pu rebondir vers la vie. Ah oui, chers amis, les résultats obtenus par la volonté d'aboutir, par le zèle que l'Esprit de Christ vivifie, par l'amour persévérant, ces résultats tiennent du miracle et il faudrait des heures pour citer ceux qui nous viennent à l'esprit. Et il en va de même de la persévérance dans la foi qui obtient l'accomplissement des promesses et de la persévérance dans la vie de l'Esprit Saint. Décider de prier jusqu'à l'exaucement pour telle ou telle personne, par exemple, ça c'est bien. Mais persévérer, c'est l'indispensable absolu. Décider d'être plein de l'Esprit Saint est juste. Mais maintenir attentivement la flamme est encore beaucoup plus important. Les Athéniens organisaient parfois des courses à la torche. Celui qui était déclaré vainqueur n'était pas celui qui courait le plus vite, mais celui qui arrivait avec sa torche toujours allumée. Si le maître revenait aujourd'hui, mon cher ami, trouverait-il ta torche allumée? Oui, cher ami, car pour réussir, il faut savoir que ce que l'on entreprend est bien dans la volonté de Dieu, et il faut surtout exercer la persévérance. Mais j'en ai si peu, me disait une très aimable chrétienne, qui entreprenait beaucoup trop et ne finissait absolument rien. Ma chère sœur, c'est ce que je lui ai dit. Vous auriez assez de persévérance pour accomplir une ou deux choses, certainement, celles que Dieu voudrait par exemple vous confier. Mais vous n'en aurez jamais assez, c'est vrai, pour tout ce que vous avez cru devoir entreprendre. Oui, tout est accompli. Jésus a terminé son œuvre de rédempteur. Oui, chers amis, et ce qu'il faut à l'Église d'aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, qui fassent leur devoir sans broncher et sans se demander s'ils recueilleront de la reconnaissance ou de l'ingratitude des chrétiens qui fassent ce qui est bien sans se lasser. Quel est, chers amis, le secret de ces persévérants? Quel est le secret d'une volonté qui aboutit? Je vais le résumer une dernière fois et le compléter en terminant à l'instant mon entretien avec vous de cette première partie. Primo, les vrais persévérants s'inquiètent de connaître la volonté de Dieu avant d'entreprendre ou de décider. Secondo, ils s'entraînent déjà dans les petites choses à terminer ce qu'ils entreprennent. Et tierso, ils savent que hors de Christ, ils sont perdus. Mais en se souvenant de la croix, ils demandent et reçoivent le renouvellement de l'Esprit de Christ. Et c'est ainsi qu'ils mènent à bien leur bon combat. Chers amis chrétiens, être plein d'Esprit Saint, c'est aussi un peu cela. Et voyez-vous, l'Esprit Saint, lorsqu'il visite un défaillant, par exemple, en réponse à son appel à l'aide, alors là, il lui communique une parcelle de la persévérance divine. C'est ce qu'il fait droit maintenant pour moi. Celle de l'amour, celle qui s'est écriée un jour avec la joie du triomphe, tout est accompli. L'Esprit de Christ nous donne de commencer et d'achever, de vouloir et de réussir, de partir et d'arriver. Il est dit d'Abraham et des siens qu'ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et y arrivèrent. Jeunes gens, jeunes filles, frères et sœurs d'expérience et peut-être de lassitude, mon vœu est que par l'Esprit de Christ, vous partiez ou repartiez sur le chemin de la volonté de Dieu et qu'ayant simplifié votre vie, vous arrivez au but désiré. Oui, tout est accompli, nous dit Jésus-Christ. Notre deuxième thème, c'est le secret d'une bonne mort, si on peut dire ainsi. Nous savons qu'à la mort, les masques tombent. Auparavant, l'éducation, le contrôle de soi, l'habileté aussi nous en font porter. Et parfois, nous paraissons ce que nous ne sommes absolument pas. Il y a longtemps déjà vivait dans ma ville natale une demoiselle d'une cinquantaine d'années dont la vie, l'aspect extérieur et le langage semblaient très stricts, un langage châtié. Et cette austère personne a dû subir une opération. Or, durant l'intervention, elle parla. Et les choses qu'elle murmura furent de véritables histoires non seulement salées, mais entièrement faisandées. Et j'étais petit garçon à ce temps-là. Cependant, quand une infirmière conta le fait à mes parents, son rapportage ne tomba pas dans l'oreille d'un sourd. Cela me fit une profonde impression. Penser que la chaste mademoiselle Untel avait pu dire de très vilaines choses m'avait abasourdi, moi, à qui l'on enseignait de ne pas en dire. Ainsi, d'une façon générale, on meurt vraiment tel que l'on est et non pas tel que l'on a paru. On meurt sans aucun masque. Le pasteur Chappell raconte dans un de ses livres un incident peu banal, mais qui confirme ce que je viens d'affirmer. Un homme très actif, ayant commencé sa carrière comme cuisinier dans un petit snack bar, avait réussi à créer une des plus importantes chaînes de restaurants des États-Unis. Arrivé à la fin de sa vie, il remua les lèvres pour dire encore quelque chose. Ses intimes se penchèrent sur lui, prêts à recueillir son ultime message. Et voici ce qu'ils entendirent. Il faut couper le jambon en tranches extra fines. Oui, voyez-vous, chers amis, on meurt bel et bien tel que l'on a été. Et ne pensant pas que le manteau de la religion change quoi que ce soit à cela, si l'on ne s'attache pas aux choses d'en haut, comme le dit la Bible dans Colossiens, chapitre 3, verset 2, c'est par les choses d'en bas que l'on sera retenu. Je répète, ça sera par les choses d'en bas que l'on sera retenu. Témoin des derniers moments du célèbre cardinal Mazarin, son secrétaire Brienne rapporte ceci. Je l'entendis qui disait, en regardant les richesses et les objets d'art qui l'entouraient, « Oh, hélas, il faut que je quitte tout cela. Comment puis-je les abandonner sans regret? Je ne les reverrai plus jamais là où je vais. Adieu, cher tableau, que j'ai tellement aimé. » Par contre, au début du réveil méthodiste, malgré toutes les critiques que l'on faisait pleuvoir injustement sur les chrétiens convertis, on admettait et l'on disait qu'ils mouraient différemment. En vérité, le chrétien animé par l'Esprit de Christ n'est plus retenu captif par la crainte de la mort, comme le dit l'Écriture sainte dans Hébreux chapitre 2, verset 15. Son envol peut être d'une grande beauté quand il n'est pas masqué par trop d'interventions humaines. Adolphe Alder, après avoir béni les siens, il a vu le Seigneur venant le chercher, et tandis que sa femme priait en le soutenant, elle sentit son corps aller en avant comme à la rencontre de celui qu'il entendait et auquel il parlait. Et puis, tout illuminé par sa vision, il fut couché en arrière et son esprit était avec le Seigneur à ce moment-là déjà. Alléluia! Voyez-vous, pour Jésus-Christ, le moment de l'envol spirituel est d'une simplicité cristalline, tout comme sa vie. Les gigantesques et dernières épreuves sont passées. Il n'a plus rien à dire aux hommes. Désormais, il converse avec Dieu. Ses ultimes paroles seront pour lui. Mais les zélotes crucifiés à ses côtés, eux aussi, les entendirent, et les soldats, et beaucoup d'autres, car il les lança à claire et haute voix. « Père, dit-il, je remets mon esprit entre tes mains. » Ce n'est donc pas la mort qui est là pour l'engloutir, c'est le Père qu'il voit. Ô mort, où est ta victoire? Et dès lors, le salut est assuré et démontré. Dans l'histoire de l'humanité, le mot de la fin ne sera pas celui de la destruction qui se prépare actuellement à tout anéantir. Le dernier mot sera au Père, retrouvé et reconnu. Là, sur ce calvaire, sur ce lieu des plus rudes assauts, la victoire du Christ, précurseur de ceux qui le suivent, cette victoire est entière. Et les démons tremblent, croyez-moi, avec les hypocrites. Et le zélote, confiant, lui, s'apprête à entrer dans le paradis de la présence divine. Et chacun dans la foule s'en retourne chez lui perplexe, car seul un juste pouvait mourir comme Jésus-Christ. Tandis que aux yeux de tous, il est bien mort, il est en vérité plus vivant que jamais. Son esprit triomphant est immédiatement uni au Père dans une jubilation sans limite. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Cette dernière parole révèle les trois dominantes de toute vie victorieuse, de toute vie qui, en accomplissant la volonté du Père, se prépare à son ascension. Ces trois dominantes sont la prière, la parole de Dieu et la consécration habituelle et finale. Vous me permettrez de passer, hélas, trop rapidement sur les deux premières positions, mais rappelons simplement que cette ultime parole du Christ en croix est une prière. Jésus-Christ s'adresse à Dieu au moment de rendre l'esprit. Si Jésus-Christ prie alors, c'est que la prière chez le Fils de Dieu était habituelle. Oh oui, Jésus, ta vie de prière m'appelle à l'oraison mieux que toutes les exhortations. Vous qui ne conversez pas avec Dieu, pensez-y souvent. Jésus-Christ, lui, il priait. Et puis, remarquons une nouvelle fois le rôle de la parole de Dieu dans la vie du Christ. Il l'a lu dès son enfance. Il s'y réfère constamment dans les discours comme dans ses dialogues avec ses amis ou ses adversaires. Il s'en sert pour résister à Satan. Cette parole écrite et vivifiante est lui et si habituelle qu'elle est encore avec le Christ dans sa dernière déclaration au Père vers lequel il s'élance. Je répète cette phrase, cette parole écrite est vivifiante et lui est si habituelle qu'elle est encore avec le Christ dans sa dernière déclaration au Père vers lequel il s'élance et il dit « Père ». Puis citant textuellement le psaume 31, verset 6, « Je remets mon esprit entre tes mains. » Ah oui, chers amis, si nous voulons que notre départ soit semblable au sien, choisissons la semence que nous lançons quotidiennement dans notre esprit. Pensez-y. Oui, toi qui ne sais te passer de tes journaux, de ta télévision et de tous les gadgets d'Internet, sa parole est une semence de vie. Et médite-la aussi souvent que tu le peux. En terminant, et comme je vous l'ai dit, je souhaiterais insister sur la troisième dominante de la vie du Christ, c'est sur sa consécration habituelle. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Vous qui aimez à lire et à relire la vie du Seigneur, Vous savez bien que l'esprit de cette phrase se retrouve dans toute sa carrière. Sa nourriture était de faire la volonté du Père. En tant que fils de l'homme, il s'est gardé pour le Père et pour le ministère en se préservant de toute souillure. En un mot, il avait appris à s'en remettre continuellement à Dieu. C'est cela, la consécration. Et c'est pourquoi il peut maintenant remettre son esprit, l'essentiel de lui-même, entre les mains du Père. D'une façon générale, on ne peut être au travers des grandes épreuves ou de la mort que ce que l'on a été habituellement. Amis chrétiens, il faut donc l'écouter, ce victorieux, car il a les paroles de la vie éternelle. L'entendez-vous? Il nous parle en ce moment. Il te parle. Si quelqu'un veut venir après moi, jusque là où je suis, qu'il renonce à lui-même, qu'il apprenne à préférer la parole de Dieu à la tradition, l'esprit de la croix à l'esprit du moi. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se garde des souillures du monde, qu'il ne touche pas à ce qui est impur. L'autre jour, j'ai vu une colombe sur un fil à haute tension. Oui, une colombe sur un fil à haute tension. Pourquoi n'est-elle pas foudroyée? Simplement parce qu'elle ne touche à rien d'autre. Si elle entrait en contact à la fois avec la puissance du courant et avec ce qui conduit au sol, elle serait immédiatement électrocutée. Hélas, il y a tant de chrétiens qui se court-circuitent continuellement en tentant de communier en même temps avec Dieu et avec la pratique du péché. Et ils s'étonnent de prendre leur joie et leur saine assurance, mais pas de les prendre, comme je viens de le dire, mais de tout perdre. Et oui, il ne faut pas nous étonner si nous perdons notre joie et notre sainte assurance si nous continuons de pratiquer le péché. Voyez-vous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et oui, qu'il ne touche pas à ce qui est impur, peu pour moi, et qu'il remette tout, et habituellement, surtout, entre les mains de Dieu le Père. Quelques chrétiens mal inspirés essayent, après leur conversion, de se garder entre leurs propres mains. Ils n'entrent donc pas dans la voie royale de la consécration, car bientôt, au centre d'eux-mêmes, ils perdent l'esprit de Christ, ou ils en sont peut-être même totalement dépouillés. Et alors, ne sont-ils pas, selon l'expression de l'apôtre Jean, pauvres, misérables et nus, malgré leur profession de foi? Car voyez-vous, un chrétien sans l'Esprit de Christ, est-il vraiment encore un chrétien? Un pasteur raconta qu'un jour, à la fin d'un culte, quelqu'un me vola une sacoche qui contenait ce que j'avais de plus précieux, ma première Bible de serviteur de Dieu. Cette sacoche m'appartenait encore. Mais quoi? Mais je ne la possédais plus. Terminé, je l'ai plus. C'est ce qui arrive fatalement à notre vie profonde comme à nos biens intellectuels ou autres si nous ne les confions pas constamment aux mains du Seigneur. Ah, chers amis, mettre et remettre entre les mains du Seigneur ce que l'on est, ce que l'on doit faire et ce que l'on a, c'est vivre tellement plus libre, tellement moins écrasé par l'inquiétude, les soucis ou les peines. Oui, c'est cela, la consécration habituelle, et c'est à cela que l'Esprit de Christ nous convie. Charles Studd, y ayant été appelé, il légua la totalité de son héritage, soit environ 500 000 francs en or, à différentes œuvres chrétiennes. Il écrivait à cette occasion cette profession de foi toute marquée de son humour. « Dieu a promis de rendre au centuple ce que nous lui donnons. Quel intérêt extraordinaire! 10 000%! » Et Charles Studd ne manqua jamais de rien dans l'admirable mission qu'il lui fut confiée. La maman à laquelle je pense ne remit pas de l'argent, car elle n'en avait point. Mais elle remit un jour son fils prodigue, son propre fils, vous l'avez compris, entre les mains de Dieu. Car jusqu'alors, elle l'avait gardé dans son chagrin et dans sa peine. Mais dans un instant de révélation, elle comprit qu'elle ne devait même plus le garder dans son intercession. Et elle le remit solennellement entre les mains de Dieu. Sa prière ne fut plus dès lors une prière de supplication, mais de reconnaissance envers celui qui avait pris son fils en main. Et 2 ans plus tard, croyez-moi, il s'est converti. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Amis chrétiens, il n'y a qu'un secret de victoire pour ceux qui veulent suivre Jésus-Christ jusque dans la maison du Père et qui veulent bien mourir au temps marqué après avoir persévéré. Ce secret, le voici. Mourir à soi-même le jour de la conversion, le jour du baptême biblique qui est en quelque sorte l'image, mais aussi à chaque jour mourir à soi-même. Et cette mort à soi-même qui nous fait préférer l'esprit de la croix à l'esprit du moi comprend bien sûr la joyeuse et habituelle consécration entre les mains de celui qui, selon la déclaration de l'apôtre Paul, a la puissance de garder les dépôts que nous lui confions, selon 2 Timothée chapitre 1 verset 12. Voilà ce que nous enseigne la dernière et victorieuse déclaration du Christ avant que son corps ne s'immobilise sur la croix. Et maintenant, quel salut merveilleux nous aussi nous pouvons dire dans la vie et en face de la mort. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Mes frères et sœurs, Comment remettre son esprit entre les mains de Dieu sans remettre aussi le reste? Eh bien, voici comment. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus, oh, je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends mon corps et prends mon âme et règne sur mon cœur. Nous avons lu, chers amis, avec stupeur, dans un hebdomadaire protestant, que l'Église d'aujourd'hui devrait se taire et devenir l'Église du silence. L'Église n'a-t-elle donc plus rien à dire au monde d'aujourd'hui? A-t-elle perdu l'Évangile éternel? Non, ce n'est pas le message qui manque à l'Église, mais c'est sa consécration. Les guerriers mahométans qui étaient en croisade couraient sur leurs ennemis chrétiens en criant « Un peuple qui aime la mort autant que vous aimez la vie est en train de fondre sur vous. » Ah, si par le Saint-Esprit nous pouvions dire « Frères d'humanité, nous voulons vous servir autant que vous désirez jouir. Nous saurions que dire et que faire. L'Église ne serait pas celle du silence, mais bien l'Église confessante et agissante, annonçant le Christ Sauveur et hâtant le règne qui vient. Chers amis, consacrons-nous, mettons et remettons tout entre les mains du Seigneur. Le monde est au bord de la catastrophe. Soyons les témoins du seul Sauveur et vivons et agissons, car le Maître revient bientôt. Avant de terminer par la prière, j'aimerais vous donner quelques paroles d'encouragement. Jésus-Christ est ton bouclier et ta récompense la plus haute. Un bouclier contre les chocs et les ressasses de la vie. Un bouclier contre les conséquences mêmes de tes fautes et de tes défaites. Un bouclier contre ton impuissance propre. Un bouclier contre l'assaut des soucis. Un bouclier contre la peur et l'angoisse. Un bouclier contre le monde, ses séductions et ses tentations. Non seulement ton bouclier, mais ta récompense la plus haute. Non pas la récompense d'une vie de perfection. Cette récompense-là n'est pas d'ici-bas. Pas la rémunération du bien que tu peux faire ou d'un mérite personnel quelconque. Il ne s'agit que de ce qui vient couronner ou récompenser ta quête. Tu avais faim? Tu voulais trouver le Seigneur, et cette faim est maintenant apaisée. Une récompense très haute, te dit-il. Oh oui, elle est toute pareille à celle des plus grands saints, du plus grand qui ait jamais vécu. Non pas un trophée octroyé au vainqueur ou la reconnaissance de la vertu qu'on honore, mais la récompense qui est la tienne parce que tu as cherché et que Jésus-Christ ton Seigneur est celui que tu cherchais. Chers amis, maintenant, prions ensemble. Seigneur, saint et miséricordieux, pardonne-nous d'avoir si souvent négligé notre devoir et méconnu la loi du travail. Mais préserve-nous aussi d'être submergés par les soucis matériels de notre métier, au point de ne plus savoir le sanctifier et l'animer. Donne-nous, après l'effort, le repos nécessaire. Octroie-nous chaque jour la faculté de nous recueillir et le précieux bienfait du dimanche pour fortifier nos corps et nos âmes. Nous songeons aujourd'hui, Seigneur, à tous ceux qui ne se livrent pas à un travail honorable, à ceux qui vivent de l'effort d'autrui et poursuivent un gain malhonnête. Ouvre leurs yeux à l'avertissement de ton Fils. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Nous pensons aussi à ceux qui doivent accomplir un travail auquel ils ne trouvent aucune joie et qui menacent d'écraser leur personnalité intime. Oh, donne-leur la force d'écarter ce danger. Hâte le jour où enfin, dans une société de collaborateurs et de frères, tous pourront travailler avec joie et sans gémissement, et où chacun recevra le produit équitable de son travail. Ô notre Père, nous pensons devant toi aux surmenés, nous pensons devant toi aux chômeurs, nous portons sur notre cœur ceux que les circonstances défavorables ont jetés dans le besoin et la pauvreté. Réchauffe notre âme en leur faveur, et que notre main sache s'ouvrir, que notre gratitude envers toi se traduise en un support efficace de tous les établissements de chrétiens, miséricorde de toutes les entreprises qui visent d'ennoblissement carrément de notre peuple et d'avancement de ton saint règne. Ô Dieu, embrase-nous surtout de ta compassion afin que nous éprouvions à donner plus de joie que à recevoir et que nous sachions travailler utilement comme ton Fils l'a fait pendant qu'il fait encore jour, car les ténèbres ne sont pas très loin. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime et comment. Et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis et merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et à bientôt à nouveau, j'espère, car cette série va tout à l'heure, la prochaine fois déjà, se terminer. Mais il y en aura d'autres, merveilleuses, des études magnifiques, inspirées par l'Esprit Saint. À bientôt à nouveau. Au revoir, mes très chers amis.